السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله في cette soirée du mercredi 20 صفر 1434 de l'Hégire, correspondant au 2 janvier 2013. Inch'Allah ta'ala. Donc nous sommes avec le cours, le 12e cours sur Ainsi était nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler de comment qu'étaient les prédécesseurs, rahimahum Allah, en ce qui concerne les pleurs par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahim. Ja'far ibn Sulayman rapporte. Ja'far ibn Sulayman, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Thabit, rahimahullah, pleura au point de perdre la vue. On amena alors quelqu'un pour le soigner. Et cet homme lui dit, je soigne tes yeux si tu m'obéis. Il lui répondit, et que dois-je faire? Il dit, ne plus pleurer. Si tu veux que je te soigne, il faut, inshallah ta'ala, ne plus pleurer. Il répondit alors, quel bien y a-t-il en mes yeux s'il ne pleure pas? Et il refusa qu'on les soigne. Quel bien y a-t-il en mes yeux s'il ne pleure pas? Et il refusa qu'on les soigne. En lisant cela, ça me rappelle un hadith qui est authentique. C'est dommage que je viens juste de me le rappeler maintenant, sinon je vous l'aurais affiché en arabe et en français. Je viens de me rappeler maintenant, où le prophète al-islam se réfugie auprès d'Allah de trois ou quatre choses. Entre autres, min aynin la tadma. Il se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un œil qui ne larmoyait pas. D'un œil qui ne larmoie pas. Et d'un ventre qui n'est jamais repu. Wa min qalbin la yakhsha. Et d'un cœur qui n'a pas de khushu'. Al-Muhim, ici, le témoin du cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se réfugie auprès d'Allah, auprès de l'œil qui ne pleure pas, l'œil qui ne larmoie pas. Ensuite, l'œil qui ne larmoie pas, l'œil qui n'a pas les larmes aux yeux, c'est un où est la faute? La faute se trouve dans, le problème se trouve dans le cœur. Car il faudrait que le cœur soit touché d'abord pour que l'œil pleure. Donc plus on ne pleure pas, ou la moins on pleure, moins on pleure, et plus, a'oudou billah, notre cœur est dur. Et le contraire. Plus notre cœur est tendre, et plus il y a du khushu' dans le cœur, et il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a l'amour de l'au-delà, l'au-delà, plus nos yeux ont tendance à pleurer vite. Taïb, Hassan al-Basri rahimahullah a dit, il a dit, des gens pleurent avec leur et non avec leur cœur. Que celui dont les yeux pleurent fasse pleurer son cœur. Naam, c'est ce que j'ai dit. L'essentiel, c'est le cœur. Si le cœur pleure, les yeux vont pleurer. Naam, sinon, peut-être c'est des larmes de crocodile. Il a dit, on pleure des gens. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi d'un cœur qui ne soumette pas, d'un œil qui ne larmoie pas, d'une science inutile, d'une oreille qui n'entend pas, et nous nous réfugions auprès de toi de ces quatre états. Non, tu n'as pas cité, tu l'as cité, d'un œil qui ne larmoie pas. Non, barakallahu fik. Je disais, Naam, il a dit, des gens pleurent avec et non avec leur cœur. Ensuite, il a dit que celui dont les yeux pleurent, alors pleurer son cœur. Abu Haoun, rahimahullah, rapporte, il a dit, Aoun, rahimahullah, nous enseignait, alors que les larmes coulaient sur sa barbe. Aoun, rahimahullah, nous enseignait, c'est-à-dire la science, alors que les larmes coulaient sa barbe. Naam, salaf, rahimahullah. Younous ibn Abd al-A'la, rahimahullah, rapporte, il a dit, Abdullah ibn Wahb lut le livre des épouvantes décrivant l'enfer. Abdullah ibn Wahb lut le livre des épouvantes, des horreurs, c'est-à-dire décrivant l'enfer. Il sanglota, s'évanouit. On le transporta chez lui, où il vécut quelques jours et mourut. Il sanglota, s'évanouit. Ensuite, on le transporta chez lui, où il vécut seulement quelques jours, mourut. Après avoir lu, yani, ce qu'il y a, yani, comme épouvante et horreur, décrivant l'enfer, oulayadu Ibn Mahdi, rahimahullah, rapporte. Il a observé Sofiane Thawri, rahimahullah, nuit après nuit. Je l'observais se réveiller, terrifié, écrire l'enfer. Le souvenir de la mort a écarté du sommeil et des désirs. Comme ça, il dit. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il disait, le souvenir de la mort m'a sommeil. Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai demandé à Yazid ibn Murtad, pourquoi tes yeux ne sèchent-ils jamais? Pourquoi Dieu larmoie toujours et ne sèche jamais? Il dit, pourquoi demandes-tu cela? Pourquoi demandes-tu cela? Afin que Allah Ta'ala m'en fasse. Je voudrais savoir, yani, quelle est la cause, afin que Allah subhanahu wa ta'ala me fasse profiter de ta réponse. Il lui répondit, mon frère, Allah m'a menacé si je lui désobéis de m'emprisonner en enfer. Allah Ta'ala m'a menacé si je lui désobéis de m'emprisonner en enfer. Et par Allah, je jure par Allah, que s'il m'avait menacé seulement de m'emprisonner dans un hammam. Hammam, c'est un bain mort, le bain. Et il fait très chaud à l'intérieur. Mais les gens y rentrent. Il a dit, je jure que s'il m'avait menacé seulement de m'emprisonner dans un hammam, cela mériterait que mes yeux ne cessent jamais. L'autre lui dit, c'est donc ainsi que tu t'en es privé? Il dit, pourquoi demandes-tu cela? Il dit, afin qu'Allah m'en fasse profiter. Il lui dit, par Allah, cela m'arrive lorsque je m'approche de mon épouse et s'interpose devant ce que je désire. De même que lorsqu'on pose ma nourriture devant moi et cela s'interpose devant le fait de manger. Au point que mon épouse ne pleure et que nos enfants ne pleurent sans savoir ce qui nous fait pleurer. Non. Donc ils avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où ça s'interposait devant beaucoup, beaucoup de leurs désirs, beaucoup de leurs désirs. Yazid ibn Maysara rahimallah a dit, non, pas cela. Ibrahim al-Muhla, Ibrahim al-Muhla rapporte rahimallah, il a dit, je suis allé trouver Ata, je suis allé Ata, Sulami chez lui. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai ensuite regardé et je l'ai trouvé assis en son lieu de prière au milieu d'une tache humide. J'ai pensé qu'il s'agissait de traces d'ablution qu'il avait accomplies. Mais une vieille femme qui se trouvait chez lui me dit qu'il s'agissait des traces de ses larmes. Qu'il s'agissait des traces de ses larmes. Yusuf ibn Muslim, rahimahullah, rapporte, il a dit, Ali ibn Bakr pleura jusqu'à perdre la vue. Et les larmes avaient laissé des sillons sur ses joues. Ali ibn Bakr pleura jusqu'à perdre la vue. Et les larmes avaient laissé, yani, des sillons sur ses joues. Ibrahim ibn al-Ash'ath rapporte, il a dit, je n'ai vu personne dans le cœur duquel Allah subhanahu wa ta'ala a occupé une place plus éminente qu'en celui de Al-Fudayl ibn Iyad. Lorsqu'il mentionnait Allah, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou lorsqu'il écoutait le Coran, on voyait sur lui la peur et la tristesse. Ses yeux débordaient de larmes. Et il pleurait au point que les gens présents n'éprouvent de la compassion pour lui. Les gens qui étaient présents devant lui ou là avec lui, quand ils le voyaient pleurer ainsi, au point où ils éprouvaient de la compassion pour lui. Amr ibn Aoun, rahimahullah, rapporte, il a dit, je n'ai pas prié derrière Khalid ibn Abdullah Tahan sans entendre le son de ses larmes tombant sur le sol. Je n'ai pas prié derrière Khalid ibn Abdullah Tahan sans entendre le son de ses larmes tombant sur le sol. Abdelwahid ibn Zayd rapporte, il a dit, j'ai passé des nuits entières à réfléchir sur la tristesse continuelle de Utba. Sur la tristesse continuelle de Utba. Et je lui en ai parlé, afin qu'il fasse preuve de bienveillance envers lui-même. Mais il me répondit, je ne pleure pourtant que pour ma négligence. Naam, je ne pleure pourtant que par moi, que pour ma négligence. C'est pour cela que je pleure. Al-Hasan ibn Arif, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai vu Yazid ibn Harun al-Wasit, j'ai vu Yazid ibn Harun al-Wasit, et il avait les plus beaux yeux qui soient. Il avait les plus beaux yeux qui soient. Puis je l'ai vu avec un seul œil. Puis je l'ai vu aveugle. Je lui ai alors demandé, qu'est-il arrivé à ses deux beaux yeux? Il répondit, les pleurs dans la nuit les ont emportés. Les pleurs dans la nuit, au milieu de la nuit, les ont emportés. Abu Mouchar rapporte, rahimahullah, il a dit, Al-Awza'i passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Al-Awza'i passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Un de mes frères m'a rapporté que la mère de Al-Awza'i entrait chez lui, cherchait le lieu où il avait prié et le trouvait humide en raison de ses pleurs dans la nuit. Et le trouvait humide en raison de ses pleurs dans la nuit. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, pleura. Et on lui demanda, pourquoi pleures-tu? Il répondit, je crains que demain, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ne me jette en enfer sans faire aucun cas de moi. Sans faire aucun cas de moi. Je crains que demain, qui dit le contraire? Je crains que demain je sois jeté en enfer et que je sois méprisé. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ne fasse aucun cas de moi. Bien sûr. Ne peut dire une chose pareille que quelqu'un qui a beaucoup de piété. Car le contraire est valable, c'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas beaucoup de piété dans le cœur, et n'était pas comme les salafs qui passaient la nuit à prier, les journées à jeûner, et les journées à réciter le Coran, etc., il fait juste quelques prières, et il connaît deux ou trois hadiths, il croit que quoi? Il croit que c'est l'homme le plus pieux sur la terre, et que c'est le premier qui va rentrer au paradis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours comme ça. Naam. Plus tu as de piété dans le cœur. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as de khushu', plus tu as de science, et plus tu te sens toujours, naam, yani, tu crains toujours que tu sois le dernier à rentrer au paradis. Ou alors tu crains toujours que tu sois le premier à rentrer en enfer. Subhanallah, inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont la science. C'est-à-dire, plus tu as la science, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne est ignorante, plus elle se croit classe. Elle se croit que elle est la meilleure sur terre. Et elle se croit que demain, yani, elle va être la première à rentrer le paradis, peut-être. Peut-être même avant le prophète, elle est sortie, peut-être. Non, pourquoi? C'est l'ignorance et il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il y avait la crainte et la science, la personne aurait eu toujours peur. Toujours. Comme on rapporte que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala, ou bien Abu Bakr, l'un des deux, disait que, yani, si Yom al-Qiyama, si Yom al-Qiyama, Allah ta'ala me demande de rentrer au paradis, et que je fais rentrer un pied, tant que le deuxième n'est pas encore rentré, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle et me dise, tu vas rentrer en enfer. Car quelqu'un, par exemple, vient maintenant de dire que tu lui as fait tort, ou bien tu l'as lésé, ou bien ceci. Donc, il a dit, tant que j'ai pas les deux pieds au paradis, j'aurai peur. Qui dit comme ça? Abu Bakr radiallahu ta'ala, ou bien Omar ibn Khattab. Alors que nous, si on nous demandait, qu'est-ce que vous sentez, ou bien dans le cœur, on va dire que moi, mashallah, moi je serai parmi les premiers au paradis. Moi, c'est sûr que je vais pas aller en enfer. Moi, je prie, mashallah, et je fais salat Doha, et mashallah. Et je jeûne de temps en temps lundi et jeudi. Comment je vais rentrer en enfer? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ce qu'on appelle le ghurur. Le ghurur. Naam. C'est des. طيب كيس يراديس طيب الحسن rapporte رحمه الله il a dit par Allah j'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant طيب je crois que Allahu alam ça yani, y a une faute dans le livre normalement ça c'est pas dans notre sujet. Abdurrahman ibn Sulayman, rahimahullah, rapporte, il a dit, Abi pleura jusqu'à perdre la vue. Et lorsqu'on lui reprochait ses pleurs, il disait, aujourd'hui, alors que je ne suis pas tranquille et que je vais mourir demain, par Allah, je pleurerai et pleurerai encore, et si ces pleurs me font parvenir à un bien, c'est un don et une grâce d'Allah qu'il m'aura accordé. Et si l'on est autrement, si l'on est autrement, que sont mes pleurs face à ce que je vais rencontrer demain? Non, que sont mes pleurs face à ce que je vais rencontrer demain? Fatima bint Abdillah, Fatima bint Abdillah, rahimahallah, l'épouse de Omar ibn Abdelaziz, le calife Omar ibn Abdelaziz, a dit, ô Mourira, je crois que c'est un valet au alam. Je sais qu'il y a des gens qui prient et jeûnent plus que Omar, plus que mon mari Omar ibn Abdelaziz. Je sais qu'il y a des gens qui prient et jeûnent plus que Omar. Mais quant à ce qu'il y ait un homme qui craigne plus son Seigneur que Omar, je n'en ai jamais vu. Elle disait après. Elle parlait de Omar, toujours son mari. Elle disait, après avoir accompli la prière du Isha, il se mettait en son lieu de prière, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil. Puis il se réveillait, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil. Et ainsi jusqu'au matin. Et c'est ainsi qu'il faisait jusqu'au matin. C'est-à-dire jamais une nuit, il n'est dormi toute la nuit, non, sans se lever pour pleurer et invoquer. Hashim, rahimahullah, rapporte. Il a dit, nous sommes rentrés chez Yasser ibn Radwan, rahimahullah, alors qu'il pleurait. Et nous lui avons demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, ce qui me fait pleurer, c'est ce qui a fait pleurer les dévots avant moi. Ce qui me fait pleurer, c'est ce qui a fait pleurer les dévots avant moi. Ibn Uyayna, rahimahullah, rapporte, il a dit, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, je crois que c'est le professeur de l'imam Malik, rahimahullah, pleura un jour et on lui demanda, pourquoi pleures-tu? Il répondit, en raison d'une ostentation présente, riya, ou d'un désir dissimulé, et du fait que les gens sont devant leurs savants comme des enfants devant leur mère. S'ils leur ordonnent, ils obéissent, et s'ils leur interdisent, ils cessent. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimullah a dit, il a dit, mon fils Ali pleura. Et je lui ai demandé, pourquoi pleures-tu mon fils? Il me répondit, ô père, je crains que nous ne soyons pas ensemble au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Ô père, je crains, j'ai peur que nous ne soyons pas ensemble. Il savait que Ali n'avait pas le statut de son père. Fudayl ibn Ayyad, rahimullah, qui ne le connaît pas des salafs. Non. Donc son fils savait que il n'était pas yani, dans le même statut que son père. Non. La science, l'ilm, la peur d'Allah, la crainte d'Allah, ceci, cela. Donc il lui a dit, je crains, j'ai peur que nous ne soyons pas ensemble au jour de la résurrection. Non. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit, je faisais la lecture à Al-Anmati. Et j'ai plus tiré profit de ses larmes que de ses transmissions. J'ai plus tiré profit de yani, lorsqu'il pleurait que de ce qu'il me rapportait. Et j'ai tiré de lui un profit que je n'ai tiré d'aucun autre. Un pieux agonisait et sa femme pleurait sur lui. Un pieux était en train d'agoniser et sa femme pleurait sur lui. Il dit à sa femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, je pleure pour toi. Il répondit, si tu dois pleurer, alors pleure pour toi, pas pour moi. Quant à moi, j'ai pleuré pour ce jour depuis 40 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pourquoi pleures-tu? Il dit à sa femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, je pleure pour toi, tu vas mourir. Il dit, si tu dois pleurer, alors pleure pour toi. Quant à moi, alhamdoulilah, j'ai pleuré pour ce jour depuis 40 ans. Moi, ça fait 40 ans que je me prépare pour ce jour et ces dernières minutes où je sais que je vais quitter Allah subhanahu wa ta'ala, je vais quitter yani le monde pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt pleure pour toi. Est-ce que toi, Naam, est-ce que toi tu t'es préparé pour ce jour? Ou alors pleure pour te préparer comme moi, cela fait 40 jours que je me prépare pour ce jour. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour les gens yani mashallah qui se sont préparés. Naam, les gens qui se sont préparés et qui, la mort, quand elle est venue, même si elle survient comme ça, yani sans avertir quelqu'un, mais si tu es quelqu'un qui yani, obéit aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui s'éloigne de ses interdictions, naam. Donc si la mort viendra, automatiquement, elle te trouvera dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu es une personne qui, depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu t'endormes le soir, toute la journée, tu te surveilles. Tu surveilles tes yeux pour qu'elles ne voient pas le haram. Pour qu'ils ne voient pas le haram. Tes oreilles pour qu'elles n'entendent pas le haram. ta bouche pour qu'elle ne dise pas quelque chose de haram, tes mains pour qu'elles ne prennent pas quelque chose de haram, tes pieds pour qu'elles n'aillent pas, pour qu'ils n'aillent pas vers un lieu de haram. Naam. Donc tu te surveilles du matin au soir et tu fais au maximum ce que Allah Ta'ala t'a demandé de faire et tu évites au maximum ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a demandé d'éviter. Donc maintenant, si la mort va venir et toi tu es ainsi chaque jour tu es comme ça. Donc automatiquement et bifadlin min Allah subhanahu wa ta'ala que si la mort va venir, elle va te trouver dans une situation, mashallah. Car tu es tout le temps comme ça. Ça fait des années que tu te prépares. Et chaque jour tu dis, peut-être c'est aujourd'hui que je vais mourir. Car il n'y a pas en islam que, puisque j'ai 20 ans, donc je ne meurs pas. Je vais mourir à 75. Il n'y a pas ça. En islam, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Il se peut à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et comme ça, 20, 21, 22, 23, il n'y a pas. Ou peut-être 80, 85, Allahu alam. Mais si tu te prépares chaque jour, tu n'as pas peur. C'est pour ça qu'il y a un verset qui apparemment un peu, il étonne. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourrez qu'en étant musulman. « Wa la tamutunna » Quelqu'un va dire comment je me commande pour mourir un musulman soumis, je me commande. Naam, naam. Si tu as de bonnes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala voit ce qu'il y a dans ton cœur, alors il te facilite la tawba, il te facilite l'application, il te facilite l'investissement dans le dîn, il te facilite son rapprochement. Il a dit, si tu te rapproches de moi d'un enfant, d'un enfant, je me rapproche d'une coudée. Si tu viens vers moi en marchant, je viens en courant. Et comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné année et facilité année donc mourir musulman et pour mourir et Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de nous. Donc si quelqu'un ne meurt pas musulman ou alors meurt Allah Ta'ala en colère contre lui, c'est de sa faute. Jamais ça ne peut être, on ne peut imputer ça à Allah Subhanahu wa Ta'ala ni au destin. Mais c'est de notre faute à nous. Naam. Donc je reviens jeudi. Je reviens jeudi. C'est pour cela que je dis entre parenthèses. Je dis entre parenthèses. Chaque nuit, naam, chaque nuit, normalement, avant de dormir, normalement, la personne. Du moins avec son cœur, si ce n'est pas avec sa langue, si elle n'invoque pas avec sa langue, du moins avec son cœur, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir aidée et guidée pendant cette journée pour qu'elle soit toujours musulmane. Depuis qu'elle s'est levée, peut-être 8 heures du matin, jusqu'à peut-être elle va s'endormir à 20, 22 heures, 23 heures. Alhamdulillah, Allah Ta'ala l'a guidée, l'a aidée, a été avec elle. Elle n'a pas fait de grands péchés. On ne parle pas des petits péchés. Les petits péchés, on n'a pas celui qui n'en fait pas. Mais, Alhamdulillah, je n'ai fait aujourd'hui ni zina, ni j'ai bu de l'alcool, ni fumé de la drogue, ni la loterie, ni usure, ni ceci, ni cela. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maintenant, si, qaddara Allah wa shafa'al, j'ai fait quelque chose, Alhamdoulillah, que je suis encore vivant et que je peux faire le repentir. Alhamdoulillah, que je ne suis pas mort. Car il y a des gens qui ont fait des grands péchés, ils sont morts. Ils sont même morts dans le grand péché. Dans le grand péché. Dans un bar, il est mort avec le verre d'alcool dans sa main. Et peut-être avec une femme aussi. Et il y a eu un tremblement de terre, ils sont morts. Dans des hôtels et dans des bars en train de faire le haram. Ça s'est même passé en Algérie dans tout le monde. Naam. Donc même moi si j'ai fait un grand péché, je dis alhamdoulillah que j'ai encore quoi? J'ai encore l'occasion, yani je ne suis pas mort. Imaginez qu'on soit déjà dans la tombe. Khlas, tu es dans la tombe. Peut-être avec le ventre plein d'alcool, a'oudou billah. Ou peut-être en ayant fait la zina, a'oudou billah. A'oudou billah. Donc, alhamdulillah, nous, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دونك سي اون غروند نعمة نعم كيل فو رومارسي شاك سوار يدير الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله الحمد لله بور سيت غروند نعمة دو مافوار غيدي et de m'avoir aidé, de m'avoir guidé, de m'avoir aidé. Et je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, de m'aider ainsi chaque jour, jusqu'au jour où je te rencontre, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. On va terminer par ce hadith, par cette chose. Abu Musa al-Ash'ari, c'est un sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, les habitants de l'enfer, ils pleureront, tant de larmes, qu'on pourrait y faire voguer un bateau. Les habitants de l'enfer, ils pleureront tant de larmes qu'on pourrait y faire voguer un bateau. Il a dit, puis, ils pleureront des larmes de sang. Et c'est sur leur situation qu'il faut pleurer. Moi, je dis, ce qu'a dit ici Abu Musa al-Ash'ari, en fait, c'est un hadith authentique. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith authentique, il a dit, les gens de l'enfer pleureront au point où si on faisait voguer des barques sur leurs larmes, elles vogueraient. Et ils pleureront le sang à la place des larmes. Naam. Le hadith est en arabe. Sahih. 1679 شيخ الألباني إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن على دموعهم لجارت وإنهم لا يبكون الدم يعني ما كان الدمع les gens de l'enfer pleureront au point j'ai dit au point je me suis trompé au point où si on faisait voguer des barques sur leurs larmes elles vogueraient et ils pleureront le sang à la place des larmes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anas ibn Malik marfou'an, Yursalu al-bukaw ala ahli al-nar, fa yibkoun hatta tanqati'a al-dumu'a, thumma yibkoun al-dam, hatta yasira fi wujuhihim ka hay'ati al-ukhdud, law ursilat fihi sufun la jarat. Ou le hadith bi majmou'i turuqihi hasan. C'est-à-dire en français, les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Là, il n'y a plus de larmes. Ensuite, ils pleureront du sang jusqu'à ce qu'il y ait sur leurs joues comme des sortes de canaux. Ou alors des sillons sur lesquels, si on faisait voguer des barques, elles vogueraient. Allahu Akbar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de l'enfer. Car les gens de l'enfer vont pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de, il y ait plus de larmes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Qu'il rie un peu, mais qu'il pleure beaucoup, comme ça il a dit. Naam. Les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armes. Combien tu peux pleurer? Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, ensuite il n'y a plus d'armes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pleurer du sang. Jusqu'à ce qu'il y ait sur leurs joues, comme des sortes de sillons, comme des tranchées comme ça, sur lesquelles, si on faisait voguer des barques, elles vogueraient. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un cœur qui pleure, un cœur tendre, un cœur qui laisse les yeux pleurer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas dessécher nos yeux. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nos yeux qu'elle larmoie. De faire de nos yeux qu'il larmoie lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on invoque l'au-delà. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne inshallah ta'ala 5 ou 10 minutes pour préparer les questions. Quand vous êtes prêts inshallah ta'ala, dites-le moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Est-ce que pour le moment, vous avez des... Il y a des coupures ou il n'y a pas? Est-ce que pour le moment, il y a des coupures ou il n'y a pas? Alhamdulillah, il n'y en a pas. Taïb, je voudrais donc attirer votre attention sur une chose, Inch'Allah Ta'ala. Nous, maintenant, Alhamdulillah, je crois que, Inch'Allah Ta'ala, on ne va plus avoir, yani, le problème des rêves. On a parlé des rêves, on a dit que, voilà, pour les rêves, yani, le problème est résolu, Inch'Allah Ta'ala. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on se base sur les trois choses du hadith qu'il y a. Et c'est pas la peine à chaque fois de dire ceci, cela. Al-Muhim. Maintenant, on a, Inch'Allah Ta'ala, éloigné plus ou moins yani, les questions qui ont rapport avec les rêves pour vivre, Inch'Allah Ta'ala, dans la réalité. La deuxième chose, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va éloigner petit à petit, c'est quoi? C'est ceux et celles, surtout celles. Celles qui on voit comme des lettres. Des lettres pour raconter et parler de problèmes familiaux. Problèmes familiaux, surtout avec le mari. Surtout avec le mari. Et qui écrit presque une lettre. Presque une lettre. Alors que, yani, la personne pouvait résumer ça d'une façon brève et lui donner un caractère beaucoup plus religieux que social, que familial. Religieux. Au lieu de dire, par exemple, ah voilà, cela fait 5 ans que je suis marié avec quelqu'un qui, mashallah, qui est dans le ménage des salafs. Mais il a un problème, chaque fois il veille, il reste jusqu'à 3 heures du matin avec ses amis. Ensuite, une fois, quand il est rentré, il m'a dit, donne-moi à manger, je lui ai dit, j'ai rien préparé. Alors il s'est énervé. Il s'est énervé. Alors quand il s'est énervé, il s'est pas retenu et il m'a dit, tu es divorcé. Non, tu es divorcé. Alors moi, je voudrais chercher un nickel. Et... Non, tout ça, c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, deux mots. Quel est le statut d'un mari qui divorce en état de colère? Classe. Quel est le statut d'un mari qui divorce en état de colère? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et vous pouvez trouver ça dans ces fatawas qui s'appellent Nour al-Darb. Nour al-Darb, des fatawas en arabe. J'ai ces fatwas et j'aime beaucoup les lire. Plusieurs fois, pas une fois, plusieurs fois. Est-ce que vous m'entendez, les admins? Plusieurs fois, là, quand je lisais ces questions-réponses, quand une personne lui envoyait, lui disait, mon mari a fait ceci et cela, il commence à raconter, il l'arrête, car c'est par téléphone. Il l'arrête. Il lui dit, ici, c'est un programme religieux. On répond au halal ou au haram. Il lui dit, ce qui t'est arrivé, toi, là, il faut aller au tribunal. Non, voilà ce qu'il m'a fait ceci, je lui ai fait cela, ma belle-mère femme m'a fait ceci, mon beau-frère m'a fait cela, ceci, cela. El Mohim. C'est pour ça, une fois, j'ai écrit à une sœur qui m'avait raconté comme ça des choses, je lui ai écrit, je lui ai dit, ton problème est beaucoup plus social que religieux. Elle s'est étonnée. Elle m'a réécrit, elle m'a dit, yani, ironiquement, elle a dit, moi je croyais qu'en islam, yani, tout était religieux. Je ne savais pas que famille, c'était pas religieux. En fait, non. Si tu racontes la famille, ce qui se passe dans la famille, et yani, ta question n'est pas d'ordre religieux, c'est seulement social. Tu as des problèmes avec le mari. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est à toi de voir avec des gens pour qu'ils viennent yani, réparer, Inch'Allah Ta'ala. Ou bien voir avec ton beau-père, ou bien avec ta belle-mère, comment faire, ou bien ton père à toi. Comment le faire venir pour réparer, ou bien faire appel à l'imam qui vous a marié, et comme ça. Mais si c'est religieux, d'accord. Quel est le statut de ceci, cela? Voilà la réponse. Non. Donc je disais, même Cheikh Ben Othim, rahimahullah, je l'ai vu que dans ses fatawas, yani, quand c'était comme ça, yani, social, il disait, yani, c'est social, allez voir le tribunal. Et des fois, il dit, il n'y a qu'une seule partie. Maintenant, moi, j'ai entendu la sœur, ce qu'elle a dit. Où est son mari? Quelle est la preuve qu'il n'y a pas autre chose qu'elle a cachée et dont elle ne nous a pas parlé? Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, essayez, Inch'Allah ta'ala, d'être brève naam, dans vos questions. Naam, si c'est familial, si c'est un rapport social, essayez d'être brève. Brève, naam, pour qu'on voit, yani, comme ça en gros, c'est quoi le problème religieux dans cette affaire. Fadl. La première question, Inch'Allah Ta'ala, tfadl, qui a rapport avec le cours. Tfadl.
Assalamu alaikum. Naam, monsieur. Bon, question d'une sœur. qui demande, cher. Assalamu alaikum. La question d'un frère Afan. Dans la prière de nuit, certaines sourates me font plus pleurer que d'autres. Puis-je les lire tout le temps et toutes les nuits? Ou faut-il lire tout le Coran en un mois? Barakallahu fikum.
Salam, rahmatullah wa barakatuh. Si elle parle de la prière de la nuit, l'âme, elle peut lire les sourates qui la touchent plus que, beaucoup plus que les autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de répéter un seul verset, des fois presque toute la nuit. Pas seulement la sourate, mais un seul verset. Et comme ça faisaient des fois les salafs, quand il y avait un passage comme ça qui les touchait, ils le répétaient des fois jusqu'à, yani, presque jusqu'à l'aube. Pourquoi? Car c'est ce passage-là qui m'a touché. Vous savez que le Coran, en général, l'âme touche. Tous ces versets touchent. Mais des fois, cela dépend de nous. Nous avons par exemple des fois un problème particulier. Et dans ce cas, certains versets me touchent moi, d'après le problème que j'ai, et ne touchent pas l'autre personne. Et ensuite, c'est le contraire. Il y en a d'autres versets touchent l'autre personne, et ne me touchent pas moi. Pourquoi? Cela dépend de ce qu'on vit ce jour-là, ou bien le problème qu'on a, qu'on a eu dernièrement, ou bien le malheur qu'on a, ou bien la joie qu'on a, et comme ça. Naam. Donc, c'est permis, inshallah ta'ala, qu'elle lise les sourates qui la touchent, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Est-ce qu'il y a une autre question sur le cours? Tfadlal, Lila.
Naam, cher, j'ai plusieurs questions, inshallah. La question d'un frère qui demande, est-ce que la crainte d'Allah se fait qu'en s'éloignant des péchés? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes?
La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait d'abord par la science. Comme a dit Allah ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il a dit craigne Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs les savants. Ce sont les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu as de science et plus tu commences à faire deux choses, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et à le craindre. Ce n'est pas la crainte qui te fait yani, peur de lui comme tu as peur par exemple d'un tortionnaire ou de quelqu'un qui veut te tuer. Non, pas cette crainte-là, pas cette peur. La crainte qui te fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. C'est-à-dire, sauvez-vous vers Allah. Alors que dans la vie, dans le commun des gens, on se sauve d'une personne. Mais on ne se sauve pas vers elle. Quand j'ai peur de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je me sauve de lui et je vais chez moi. Où je vais chez quelqu'un où je me réfugie. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Fafirru ilallah. Quand tu as peur de lui, il t'a dit alors, yani, sauve-toi vers moi. Il t'a dit, sauve-toi vers moi. Subhanallah al-Azim. Donc je dis, la science est le fait de s'éloigner des péchés et de faire beaucoup d'adorations. Quand on fait des adorations sincèrement et qu'on fait yani, tout notre possible pour s'éloigner des péchés, alors on va sentir yani, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va avoir le khushu dans le cœur, et ça va nous pousser à avoir des yeux larmoyants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Encore une question, faddal.
Cheikh, écrivez-moi si j'en pose une ou trois. Écrivez-moi un ou trois sur le salon. Cinq. Je vais voir si j'en ai cinq. La première question d'un frère, Shir. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous raffermisse dans la science bénéfique. Donc la question sujet du cours. Lorsque l'on sent nos larmes monter, doit-on les retenir? Doit-on les retenir par crainte d'ostentation si on n'est pas seul? Ou doit-on les laisser couler? La deuxième question, Shir. Assalamu alaikum. Il m'arrive de pleurer à l'écoute du Coran.
Non, je crois, Allah alam, qu'il y a eu un malentendu. Quand je t'ai dit les cinq, ça veut dire pas à la fois. Non, pas à la fois. Une par une, bi'idhnillahi ta'ala. Une par une, mais tu en as lu deux, je t'ai dit encore de lire trois, c'est-à-dire cinq. Tfadlal, relis la question, inshallah ta'ala, barakallahu fik, tfadlal.
À fond, il faudrait que le frère me la renvoie parce que je l'ai effacée. Et je m'en souviens plus. Je pose une autre question en attendant de la récupérer. Donc le frère demande, il m'arrive de pleurer à l'écoute du Coran et des hadiths.
Puisque moi aujourd'hui j'ai une bonne mémoire, alhamdoulillah. Donc la question disait que lorsqu'on a des yeux qui larmoient et qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul, on est avec des gens, quel est le mieux? C'est de les laisser larmoyer ou bien de les retenir? La réponse, inshallah ta'ala, c'est de les retenir si on pouvait. Comme ça faisaient les salafs. C'est de les retenir si on pouvait. Sinon, de feindre d'aller aller aux toilettes ou je ne sais où. Juste pour le temps, inshallah ta'ala, de les essuyer pour ne pas les montrer. Maintenant, si quelqu'un les a vus ou bien, ce n'est pas important. L'essentiel, moi, j'ai essayé de me retenir, inshallah ta'ala, devant les gens. Mais quand on est seul, il n'y a pas de problème, bi'idhnillahi ta'ala, de pleurer, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal.
Question d'un frère. Donc le frère demande, cher, il m'arrive de pleurer à l'écoute du Coran et des hadiths, walhamdoulillah. Mais aussi, il m'arrive de pleurer pour des épreuves subies par des mécréants. Est-ce que cela est normal et est-ce permis dans le dîn? Barakallahu.
J'ai pas compris la deuxième partie de la question qui a rapport avec les mécréants. Qui a rapport avec les mécréants. Donc, Inch'Allah ta'ala, relis la question en essayant de l'expliquer. Barakallahu fi.
En fait, le frère dit qu'il pleure, alhamdoulilah, quand il écoute le Qur'an et les hadiths, mais il lui arrive aussi de pleurer quand il entend qu'un kafir, il lui est arrivé une épreuve, quand il entend ibtila des kuffars. Il demande est-ce que c'est permis de pleurer pour un ibtila qui arrive à un kafir, en fait. Barakallahu fikoum.
Pour la première partie, il n'y a pas de problème. Pleurer pour le Coran et les hadiths, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous qu'on pleure lorsqu'on lit le Coran ou les hadiths. D'ailleurs, n'oubliez pas que les sept, parmi les sept qui seront sous l'ombre d'Allah ta'ala, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, parmi les sept, c'est qui? C'est quelqu'un qui était seul et qui a pleuré. Quelqu'un qui était seul et qui a pleuré. Donc ça, c'est une ni'ma pour quelqu'un qui peut pleurer quand il est seul. Reste maintenant, quand quelqu'un a-t-il le droit de pleurer pour un kafir qui a eu une épreuve? Naam. On va voir ce kafir si c'est quelqu'un qui n'est pas en guerre avec nous. Si c'est un kafir qui n'est pas en guerre avec nous, c'est-à-dire il est de Ahl al-Dhimma, ou bien Mu'ahad, ou bien Musta'min, ensuite, il lui arrive quelque chose, c'est possible de pleurer dans le sens de, yani il fait de la peine. Il fait de la peine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a même fait des doigts en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de guider les kuffars. Il a dit, Allahumma, ehdi, guide, ya Allah, fais rentrer en islam, guide. Dawsan, Dawsan, c'est une tribu à laquelle appartient Abu Huraira. Wa'ti bihim. Et Allah guide telle tribu de kuffar et fais-les venir. Demander à Allah Ta'ala de guider des kafirs, c'est une preuve que tu as une rahma. Tu dois avoir une rahma comme le prophète Aslam pour tous les gens, sauf ceux qui sont en guerre contre toi. Celui qui est en guerre contre toi, tu voudrais que Allah Ta'ala lui coupe sa tête. Non, tellement il fait de mal, tellement. Mais une personne qui, même si elle est mécréante, non, mais qui n'est pas en guerre, non, celle-là, elle doit faire de la peine. Elle doit faire de la peine quand on lui voit arriver des choses, etc. Ça ne veut pas dire que je l'aime. Mais elle fait de la peine dans le sens où, yani, si elle va mourir ou là, c'est vraiment grave pour elle. C'est pour ça que, yani, j'aurais aimé que toute personne meure, yani, musulmane. J'aurais aimé, souhaité que toute personne meure, Allah Ta'ala ravi d'elle. Mais maintenant, si elle ne fait pas d'efforts, etc., la faute revient à elle, bien sûr. La faute revient à elle. Tfadlal.
Il me semble que là, c'est la cinquième question, cher. Je vais essayer de vous regrouper trois questions dans la même question parce qu'elles se rejoignent. Donc, les sœurs demandent, est-ce que le fait de ne pas pleurer par crainte d'Allah est de l'hypocrisie? Ou est-ce que c'est considéré comme être possédé par un djinn aussi? Est-ce que ça peut être un djinn qui nous empêche de pleurer? Et la troisième partie de la question, parce que ça se regroupe, est-ce qu'il est permis de se forcer pour avoir les yeux mouillés, cher, si on n'arrive pas à pleurer? Donc, la première partie, est-ce que c'est du nifaq de ne pas pleurer? Ou est-ce qu'un djinn peut s'opposer pour ne pas nous laisser pleurer? Est-ce qu'on peut se forcer à pleurer, à essayer d'avoir au moins quelques larmes ou autres, histoire de ressentir un peu de sincérité? Barakallahu fikoum, cher.
Pour la première question, dire que yani, si on ne pleure pas, on est hypocrite, non. Il n'y a rien qui dit cela en islam, que si on ne pleure pas, on est hypocrite. Mais si on ne pleure pas beaucoup, ou là, si on reste comme ça des années sans pouvoir pleurer, ça veut dire qu'on a le cœur dur. Ça veut dire que notre cœur est malade. Hein, mais qu'on devrait faire des efforts pour le soigner, inshallah, pour le rendre tendre. Pour le rendre tendre. Si on veut le rendre tendre, il faudrait aller, comme on dit, essuyer les cheveux des orphelins, faire beaucoup de bien, aimer le bien aux autres. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va attendrir nos cœurs. Surtout, comme j'ai dit, c'est pas seulement en lisant le Coran, mais surtout en ayant un bon comportement avec les gens, avec les pauvres, surtout avec les pauvres, les démunis, les nécessiteux. Hein, en étant toujours proche d'eux, en voulant les aider, en faisant ceci. On va sentir que vite on a les yeux qui larmoient, les yeux qui larmoient. Et au contraire, plus tu es avec des gens qui ont tout ce qu'ils veulent dans ce bas monde, plus tu es avec des riches avec, et plus tu vas sentir que ton cœur yani durcit. Pourquoi? Parce que c'est rare que des gens pareils yani te fassent penser à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à l'au-delà ou bien. Al-Muhim, pour la deuxième question pour le djinn. Le djinn, yani, ne peut pas spécialement empêcher la personne de pleurer, comme il ne peut pas l'empêcher de rire. Mais le djinn peut faire des problèmes à la personne, peut yani, lui faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala, lui faire oublier la salat, lui faire délaisser la salat, lui faire détester yani, l'islam, mais comme ça. Non, peut la détourner de l'islam. T'obstruer pour pleurer, je ne pense pas, car il ne peut pas aussi t'empêcher de rire. Reste la troisième question, rappelle-la moi, inchallah ta'ala, c'était quoi?
C'était sur le fait de se forcer à pleurer, au moins essayer de faire sortir quelques larmes, pour essayer de sentir un peu de ikhlas, est-ce que ça est permis ou pas?
Une seconde, inchallah ta'ala.
Cher, en même temps, dites-moi si on continue avec les questions sur le cours, parce qu'il y en a beaucoup, ou si on change un peu. Barakallah, fait comme cher.
Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Dites-moi si le hadith que je vais afficher, s'il s'affiche, inshallah ta'ala. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alhamdulillah. An Abi Mulaika, qala. Donc quelqu'un, d'après Abi Mulaika, a dit, Jalisna ila Abdillah ibn Amr. On s'est assis avec Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma. Fil Hijr, devant la Kaaba. Faqal, il nous a dit alors, Ibko, pleurez. Fa innam tajidu bukaan fa tabako. Pleurez. Et si vous ne trouvez pas de pleurs, alors faites-vous pleurer. Faites-vous pleurer. لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته. Si vous connaissiez yani la science, si vous connaissiez la science, alors l'un de vous aurait prié jusqu'à ce que son dos se brise. Et vous aurez pleuré, l'un de vous aurait pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. Il n'ait plus de voix, là, il ne peut plus pleurer. Le Cheikh, rahimallah, Cheikh Al-Albani a dit, Rawah al-Hakim marfou'an. وقال صحيح على شرطهما، لكن الصحيح كو سيتا حديث صحيح، مي با دو لا بارول دو بروفيت صلى الله عليه وسلم، مي دو لا بارول دو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي رضي الله تعالى عنه، سي لوي كي ا دي سا. Il a dit pleurez, si vous ne pouvez pas pleurer, vous n'avez pas de pleurs, alors faites-vous pleurer. Faites-vous pleurer. Essayez comme ça de vouloir pleurer. Et Inch'Allah Ta'ala, la personne pleurera. Ça, c'est en réponse, Inch'Allah Ta'ala, à yani, ce qu'avait demandé yani, la sœur, ou Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alam. L'akh Ibn Muhammad, est-ce que tu es là? Dis-moi, Inch'Allah Ta'ala, combien qu'il te reste à peu près de questions? Combien qu'il te reste à peu près de questions qui ont rapport avec le cours? Trois, Alhamdoulilah. Pose-les, Inch'Allah Ta'ala, tfadlal.
En fait, cher, j'en ai encore trois parce que je me suis arrêté de les récupérer. J'ai pris une petite pause en attendant de savoir ce qu'on allait faire. Mais il me semble qu'il y en a encore d'autres. Allahu Alam. En tout cas, je vais quand même en poser une. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pleure par crainte d'Allah de mourir ici en France. Mais j'ai quand même du mal à sortir de ce pays. Alors que dois-je faire, cher? Barakallahu fikum.
Tant que tu pleures par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ta'ala sait que tu es sincère dans tes pleurs et que tu veux faire quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution. Quelqu'un qui arrive, naam, à être chagriné au point de pleurer, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une solution s'il voit que la personne est sincère d'un côté et de l'autre, si elle bouge, elle essaye de faire les sabab. C'est pas, elle reste dans un coin, elle s'enferme et elle pleure. Mais elle essaye de faire les sabab tant qu'elle peut. Tant qu'elle peut. Naam. Pourquoi j'ai dit si Allah Ta'ala sait que la personne est sincère? Car, comme vous savez, vous devez le savoir, le pleur n'est pas un dalil de la sincérité. On peut pleurer ce qu'on appelle des larmes de crocodile. Plusieurs personnes peuvent pleurer. Il y a des personnes, tu les payes et ils viennent pleurer au tribunal. Là, il y a même chez les Arabes en général, là, des femmes qu'on fait venir spécialement le jour où une personne est morte pour qu'elle fasse pleurer des gens. Na'iha. Et celle-là, bien sûr, comme vous savez, elle est maudite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit elle est maudite. Pourquoi? Au lieu de faire apaiser les cœurs des gens et leur dire que c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut patienter et que tous on va mourir et qu'il faut accepter le destin, celle-là elle vient pour les faire pleurer. Non. Celle qui n'a pas envie de pleurer va pleurer. A'oudou billah. Et en plus de cela, elle prend de l'argent. En plus de cela, elle prend de l'argent. Et le dalil aussi que le pleur n'est pas obligatoirement et absolument un dalil de sincérité, c'est que les frères de Youssouf alayhi salam, quand ils l'ont jeté dans le puits, ils sont venus vers son père en train de pleurer. Waja'u abahum isha'an yabkun. Et ils sont venus le soir vers leur père, Allah Ta'ala dit, en pleurant. Donc, yani le pleur, c'est pas toujours un dalil de sincérité, mais Allah Ta'ala regarde dans les cœurs et il sait si c'est sincère ou pas. Tfadlal.
C'est la dernière question que j'ai parce que la deuxième, cher, vous y avez déjà répondu. Donc, c'est une sœur qui vous dit, Allah ibarak, qu'Allah vous récompense, cher. Comme toujours, votre cours a été très touchant et surtout me remet en question. Des étincelles qui autrefois étaient présentes. Je passe un peu, que la sœur me pardonne, mais je fais un petit résumé de son mail qui est assez long. Et cher, en fait, a dit, comment on peut faire pour essayer d'être toujours au maximum, c'est-à-dire ressentir à chaque fois qu'on entend un hadith ou un verset que le cœur vibre, cher. C'est un sentiment qu'on ressent surtout au début de la foi. Et plus on est ancien dans le din, plus ce sentiment diminue, cher. Et elle veut savoir comment on fait pour essayer de rester le plus longtemps possible dans ça. Afwan, cher. Faut de l'eau, cher. C'est un message du frère. Je disais donc, Cheikh, elle demande comment on fait pour essayer de maintenir au maximum cet état.
Naam, c'est comme a dit la personne. Comme a dit la personne. Quand c'est le début du dîn, on est nouveau, c'est masha'Allah. On est au top. Naam, de l'iman. On sent l'iman, masha'Allah, qu'on est yani, dans l'au-delà. Surtout, pour ceux qui étaient loin, loin du dîn et ont découvert ça. Ce n'est pas surtout pour ceux et celles qui yani, ont vu leurs parents prier, ils ont commencé à prier jeunes. Non, mais c'est surtout pour ceux et celles qui étaient vraiment loin dans le dîn et sont rentrés, ont découvert le dîn. C'est pour ça que ça s'applique beaucoup aux convertis. Les convertis, les frères et les sœurs, pour eux, ils découvrent ça vraiment, yani, c'est un autre monde. C'est pour ça qu'ils ressentent quoi? Ils ressentent yani, un khushu et iman et ceci. Non. Donc je dis, c'est normal que lorsque on débute, on trouve cela et ensuite, petit à petit, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Mais alhamdoulillah, si le khushu ou la diminue, mais la science augmente. Tu commences à apprendre, à apprendre. Et la science est beaucoup plus importante que le khushu. Le khushu, sans la science, ça sert à rien. Tu es gonflé, tu pleures, jour et nuit. Ensuite, tu n'as pas de science. Juste quelque chose et tu abandonnes la salate ou bien tu te trouves, oulayadou billah, de l'autre côté. Regardez par exemple les femmes, les vieilles par exemple, ou là, quand ils voient par exemple à la télé par exemple le film de la Risala du prophète, c'est très connu, le messager. Tout elle pleure, naam. Surtout quand il y a le combat entre Hamza et entre ceux-ci, elle mais yani, juste le film est terminé, khlas, le khushu est parti, pourquoi il n'y a pas de science? C'est juste on s'est enflé ou l'a gonflé à cet instant-là, ensuite il n'y a rien. Le plus important, c'est quoi? C'est, alhamdoulilah, d'apprendre la science. Pourquoi? Pour rester yani, stable, pour rester raffermi sur le droit chemin, le droit chemin, jusqu'à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je me souviens, par exemple, regardez l'ignorance qu'elle fait. L'ignorance qu'elle fait. Pour que je vous disais que, quand on rentre en islam, on a, alhamdoulilah, khushu, mais il y a l'ignorance. Moi, je me souviens, quand j'ai fait la tawbah, j'ai commencé à m'investir dans le dîn. Les premiers mois, tellement j'étais heureux, tellement je sentais, mashallah, la foi, et je me sentais dans l'au-delà peut-être. Je n'arrêtais pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte, de faire que je devienne aveugle. Que je devienne aveugle. Subhanallah al-Azim. Regardez si Allah subhanahu wa ta'ala avait exaucé mon ignorance. Et s'il m'avait yani, exaucer ce vœu. Et que maintenant je serai aveugle. Allahu Akbar. Alors que les aveugles donneraient tout l'or du monde, si c'était possible, pour devenir voyants. Mais, Allah ghalib, quand la personne est ignorante, moi je croyais que c'était bien. Je disais comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va m'éloigner toutes les fitnas. Comme ça, quand tu sors dans la rue, il n'y a pas de fitna, tu es aveugle. Donc c'est quelque chose de masha'Allah. Mais en fait, c'était quoi? C'est l'ignorance. Donc il y a le khushu'. Il y a l'amour d'Allah, il y a la crainte d'Allah, mais il n'y a pas la science. Donc je dis à cette sœur, Ma'alish, même si le khushu a diminué, l'essentiel c'est de bien yani, s'accrocher à la science, la vraie, pour yani, rester stable comme ça, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, alhamdoulilah, quand on fait beaucoup d'adoration, surtout si on est sincère avec Allah, ça monte, le thermomètre monte. Et des fois, il descend, et comme ça, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل.
Je me suis arrêté, cher, pour les questions sur le cours, donc je laisse au frère le loisir de poser les autres questions. Voilà, que l'on fait.
Naam, maintenant, inchallah ta'ala, on va sortir du khushu' et on va rentrer au tribunal. Enfin, on va rentrer au tribunal. Préparez-vous, levez-vous, le juge va rentrer. Attention, c'est pas comme on dit chez vous dans le tribunal. Attention, le juge va rentrer. Préparez-vous. Allez, commence la première question, inchallah. Tfadhal. C'est quoi la question de tout à l'heure, la question de la sœur? Fawzi, tu avais commencé une des questions qui a rapport avec le tribunal et c'est une question de la sœur. Est-ce que tu te rappelles? Lila Barklaouf.
Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Je reprends la question de la sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, Allahi afdakum, ya cher, qui vous accorde al-firdaus pour ce que vous faites. Étant dans ma période de viduité, ayant été répudié à ma demande, suite à un énorme conflit, je vous ai exposé les faits par email. Je viens par ce message vous demander, sachant que nous souhaiterions continuer ensemble. Est-ce que, avant qu'il me reprenne devant deux témoins, il peut dormir chez moi, vu qu'il n'est pas de ma région, en attendant que nous rencontrions un homme de science pour mettre les choses à plat et ainsi repartir sur de meilleures bases? Barakallahu fik, cher.
Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Amin pour les doigts. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous englober tous et toutes dans ses doigts. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, il n'a pas le droit de passer la nuit dans ta maison. Je veux dire par là, il n'a pas le droit de passer la nuit dans ta maison en ta présence. Maintenant, si tu veux lui laisser la clé de la maison et toi tu vas chez tes parents ou bien chez une sœur, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala fasse, yani, unisse entre vous, il n'y a pas de problème. Mais que vous soyez les deux dans la même maison, dans le même appartement, même chacun dans sa chambre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est haram. Wallahu Ta'ala alam. Tfadlal.
Alors, Inch'Allah, je termine la deuxième question que le frère m'a envoyée. Et ensuite, j'ai plus de questions. Et je laisse la place, Inch'Allah, à Mousseline. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve de l'enfer ainsi que les admins. Ma question est la suivante. C'est question d'une sœur. Durant la salat, elle, al-Rawatib, nous effectuons quatre rakahat avant de voir. Je voulais savoir si ces quatre rakahat correspondait à la salat Doha. Et s'il y a un temps déterminé pour les effectuer. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Les quatre rak'at qui sont avant dhuhr n'ont aucun rapport avec salat al-duha. Non. Les quatre rak'at qui sont avant le dhuhr rentrent dans les 12 qui, ou lesquels, si on les fait tout le temps, Allah Ta'ala va nous construire une maison dans le paradis. Quatre rak'at avant le dhuhr. Et ces quatre rak'at avant le dhuhr se font, il y a de préférence après l'adhan. De préférence après l'adhan. Et l'Iqama. Sinon, lorsque le moment du dhuhr rentre. Lorsque le moment du dhuhr rentre, mais pas avant. Et bien sûr, vous savez, si le moment du dhuhr rentre, il n'y a plus de salat al-duha. Tfadlal.
Salam alaikum, cher. Je vous pose une question qu'on a pu récupérer parce qu'apparemment il y a eu une petite perturbation. Donc, c'est une sœur qui demande: je suis enceinte d'une fille et je voulais savoir si le prénom Souleyma est un prénom musulman. Je vous écris le prénom, cher, comme ça vous allez voir comment ça. Elle veut savoir si c'est musulman ou pas. Barakallah fikoum, cher.
Je ne sais pas, je ne connais pas ce prénom, je connais Salima. Je connais Salima, que c'est musulman. Je connais le garçon Souleym, comme la mère de Anas. Elle s'appelait, sa kunya c'était Souleym. Donc je dis, Wallah, je dis de ma tête, hein, je dis, puisqu'il y a Souleym qui est garçon, donc si on dit Souleyma, donc c'est une fille. Comme on dit Salim et Salima, Karim et Karima. Et à la fin, je dis, Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. De toute façon, moi, si j'étais à votre place, mais c'est juste mon avis aussi, si j'étais à votre place, je ferais mon effort pour appeler mes filles ou mes garçons, ou mes enfants en général, yani des noms yani qui étaient proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'est une fille, Je l'appellerai comme son épouse qu'il aimait beaucoup, Khadija. Son épouse Habiba, Habiba. Bon, Habiba, c'est sa kunya. Elle s'appelait. Comment qu'elle s'appelait Habiba? Elle s'appelait Ramla. Elle s'appelait Ramla. Et comme ça. Naam. Ou alors les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'appelle comme ça, Fatima. Je l'appelle Kulthum. Je l'appelle Ruqiyya. Je l'appelle Zainab. Et comme ça. Mais c'est juste, yani, mon avis. Wallah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète a dit, les meilleurs noms pour les garçons, c'était Abdullah et Abdurrahman. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère qui dit, question de mon ami, imam de notre mosquée. Un frère s'est converti il y a quelques jours. Il vivait en couple avec une chrétienne, ayant eu des enfants avec elle. Elle est toujours chrétienne, mais peuvent-ils rester ensemble en faisant un acte de mariage charaï, sachant qu'il est tout nouveau dans l'islam? Et ça fait environ une semaine, Barak cher. Donc si oui, doit-il faire tawba? Barakallahu fikoum, cher.
Donc je reviens jeudi pour les prénoms. Pour les prénoms, il y a certaines personnes qui ont le complexe de la société. Ont le complexe de la société. Ils disent par exemple, si je l'appelle Khadija ou là je l'appelle Aïcha ou là, yani c'est un peu devant les gens, ils vont dire celui-là il est arriéré, celui-là il est ceci, cela. Moi je dis, moi c'est Allah Ta'ala qui m'a créé et je vis pour lui. Moi, je fais mon possible pour vivre pour lui, pour qu'il me ravisse. Quand je vais appeler ma fille Aïcha, Naam, Aïcha au lieu de Catherine, quand je l'appelle Aïcha, ou la Catherine, quand je l'appelle Aïcha, est-ce que Allah Ta'ala sera ravi de moi ou pas? Il sera ravi parce que je l'ai appelé à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de sa femme. Donc maintenant, ce que pense X ou Y, ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que X ou Y, ne va me faire du bien, ni dans ce bas monde, et encore moins dans l'au-delà. Et ensuite, cet X ou Y, surtout s'il n'est pas musulman, est-ce que lui, avant d'appeler ses enfants, de les prénommer, est-ce qu'il vient me demander mon avis? Il ne me demande pas. Lui, il l'appelle comme il veut, lui. Comme ça lui plaît, il l'appelle. Donc moi aussi, j'appelle mes enfants comme je veux moi, et comme aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et je m'en fiche de tout le monde, que ça leur plaise ou pas, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, on revient à la question. Écris-moi un mot qui a rapport avec la question. Écris-moi un mot qui a rapport avec la question, inshallah ta'ala. Sinon, je te donne carrément le micro, tfadlal.
C'est la question d'un imam d'une mosquée, cher. Donc, c'est une question qui aura son importance. Il dit qu'un frère s'est converti. Il y a maintenant une semaine. Il était marié avec une chrétienne et il a eu des enfants avec elle. Elle est toujours chrétienne et il veut savoir s'il peut rester avec elle en faisant un acte de mariage charaï, sachant qu'il est tout nouveau dans l'islam, donc. Est-ce qu'il doit faire tawba ou pas? Barakallahu fikoum, cher.
Yachir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Yachir, surveille bien, yani tes mots et ce que tu as dit. Est-ce que tu as bien dit, j'ai bien entendu qu'ils étaient mariés? Ah, femme, c'est très important. Est-ce qu'ils étaient mariés ou ils vivaient en couple? Il y a une grande différence. Est-ce que ce frère était marié avec une chrétienne, ou là, chef de kifesh, Ibn Mohamed al-Jazairi, Mohamed al-Jazairi, on doit lui donner un petit coup de fouet sur son dos. Comme ça, chef, il vivait en couple. Pourquoi j'ai dit comme ça? Pourquoi je dis comme ça? Car s'ils étaient mariés, on ne leur demanderait pas, yani, ni de faire tawba, ni de quoi, ni d'aller refaire un acte de mariage. On leur dit, vous êtes rentré, toi tu es rentré en islam, et elle est chrétienne, classe vous continuez directement. Mais là, en disant qu'ils vivaient en couple, ça veut dire qu'ils vivaient dans le haram. Ils vivaient dans le haram. Jamais, 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 autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a dit à des gens qui étaient mariés d'aller refaire l'acte de mariage. L'islam reconnaît, reconnaît l'acte de mariage s'il a été fait même dans une autre religion, dans le christianisme, dans le judaïsme, même dans le shirk, des mouchrikoun, des kofars, des bouddhistes. S'ils se marient dans leur religion, l'islam accepte. Si maintenant ils rentrent en islam, on va jamais leur dire allez refaire l'acte de mariage. On va leur dire, allez, vous êtes rentrés en islam, continuez. Et vos enfants sont vos enfants. Regardez quand quelqu'un se marie, quel est l'avantage, subhanallah al-azim. Même si ce mariage n'est pas vraiment chez Allah Ta'ala accepté, mais pour s'être marié officiellement devant les gens, tout le monde sait que vous êtes marié, on accepte de leur acte de mariage. Et jamais le prophète sallam n'a dit à des kuffars, allez refaire votre acte de mariage. Mais maintenant que ce couple vivait en haram, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous allez vous séparer dès maintenant. Ensuite, attendre, c'est-à-dire voir que la femme fasse la période de viduité, c'est-à-dire une fois les menstrues, pour voir si elle est enceinte ou pas. Et ensuite, faire la tauba. La tauba. Ensuite, vous marier et les enfants avec cette femme ne sont pas les enfants de cet homme. Ce sont les enfants de la femme seulement. C'est-à-dire ils appartiennent, ils suivent leur mère et non pas le père. C'est-à-dire ils n'ont pas le frère qui vient de faire yani tauba. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. S'il y a d'autres questions ou il y a quelque chose qui n'est pas encore expliqué, mais allez, vous pouvez poser la question, inshallah ta'ala. Donc, yani, période de viduité, une fois les menstrues, avant cela, tauba, et ensuite, il se marie normalement, et les enfants sont les enfants de sa femme et pas ses enfants. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh, et désolé pour l'erreur qui était importante. Avant de passer à l'autre question, cheikh, il y a une personne qui vous demande de faire doua pour une famille de Sassone qui sont décédées dans un incendie en région parisienne. Donc il y a les parents et trois enfants qui sont morts dans le feu. Et cheikh, je me permets. Il y a eu un incendie en région parisienne, il y a cinq musulmines qui sont morts dedans, deux parents et les trois enfants. Ils sont morts et la personne demande qu'on fasse doua pour cette famille. Et j'en profite puisque j'ai le micro, cher, pour vous poser une question. Et je me permets de revenir sur les questions en rapport avec l'ikhlas, cher, parce que je pense que cette question touche pas mal de personnes. La question qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, j'ai un véritable problème. Je pense ne plus avoir suffisamment la crainte d'Allah. Je ne me contente que du minimum. Salat wa siyam et ta'at az-zawj, l'obéissance au mari. Depuis que j'ai un enfant, j'ai tendance à me laisser aller. Que conseillez-vous à des jeunes mamans qui pensent ne plus avoir le temps pour entretenir la foi chère? Barakallahu fik.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala englober de sa rahma les personnes qui sont mortes dans ce feu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonner leurs péchés et les faire rentrer dans son paradis. Ainsi que tous ceux qui meurent yani, dans une situation pareille. Al-Muhim, quant à la personne qui vient de dire maintenant qu'elle n'avance pas, etc., je lui dis, chère sœur et aussi chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Il a dit pour celui d'entre vous qui veut avancer ou reculer. Les savants ont dit, donc en islam, il n'y a pas stagné. C'est-à-dire que si tu n'es pas en train d'avancer, tu es en train de reculer. Non, si tu vois tu n'es pas en train d'avancer, ça veut dire que tu es en train de reculer. Et si une personne recule, on ne va pas lui dire que yani, c'est très grave, elle va sortir de l'islam. On lui dit non, ce n'est pas grave à ce point, mais seulement, il ne faut pas te laisser aller, mais il faut te reprendre, te ressaisir, te ressaisir. J'ai remarqué que la plupart des sœurs quand elle se marie, et surtout quand elle commence à avoir des enfants, elle s'éloigne du dîn. Ou du moins, pour ne pas dire du dîn de l'islam, elle s'éloigne de quoi? De l'apprentissage de la science. Elle s'éloigne des cours. Elle s'éloigne yani, d'apprendre des choses. Elle s'éloigne même peut-être yani, de la rencontre avec les sœurs, etc. Les assises, etc. Cette chose, il faut bien faire attention à elle. Parce que petit à petit, ça va devenir une habitude. Et la personne va dire, El Mohim, moi je prie toujours, je suis voilé et yani, j'obéis à mon mari. Donc, Alhamdoulilah, ça me suffit. Ça me suffit. Moi, je vais lui dire, si tu vas suivre cette logique-là, naam, tu vas te trouver vraiment, 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 yani, en bas, en bas, en bas, en bas. Au point où tu ne vas avoir de l'islam que yani, les saints piliers. Et alors, tu ne sentiras jamais la saveur de la foi. Et alors, tu commenceras à faire les péchés, les petits, ensuite les grands. A'oudou billah. Donc, la personne doit tout le temps, yani, voir comment se ressaisir, et ne pas se laisser aller, et comment se programmer. Avant de se marier, la sœur assistait par exemple 3 cours par semaine. Maintenant, mariée avec des enfants, c'est plus ou moins difficile. Alors disons, je vais me limiter au moins un cours par semaine, au moins un cours. Et une assise avec des sœurs. Si la personne ne va plus entendre yani, la science, il ne va plus s'asseoir avec ses sœurs et les rencontrer pour parler de dîn, etc. Elle va quoi? Elle va yani, être la cause du durcissement de son cœur. Et si une personne, son cœur durcit, a'oudou billah, yani, c'est trop tard pour elle pour le faire revivre de nouveau. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Cher, si vous souhaitez que je pose une question sur le cours, écrivez-moi 1, et si c'est pas en rapport avec le cours, écrivez-moi 2. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, cher. Si vous souhaitez une question en rapport avec le cours, cher, écrivez-moi 1, et si vous souhaitez une question d'ordre général, écrivez-moi 2, cher.
En fait, quand tu dis qu'il y a une question sur le cours, ou là des questions sur le cours, yani, je ne peux m'empêcher de te dire Lila. Pourquoi? Parce que le cours a été fait spécialement pour que les gens l'écoutent et pour que yani, s'ils ont des choses qu'ils n'ont pas comprises dans le cours ou des choses en rapport avec le cours, ils doivent la poser. C'est pour cela que je pense que yani, c'est logique même qu'on doit commencer par les questions qui ont rapport avec le cours. Sinon, à quoi ça sert que j'ai lu ce que j'ai lu, par exemple, sur la crainte d'Allah? Si maintenant une personne a une question sur la crainte d'Allah, on ne va pas lui répondre. Tfadlal.
C'est pour ça que je me suis permis de vous demander ça, parce que moi aussi j'avais cette idée-là. Donc la question du frère qui dit, Cheikh, salam alaykoum, qu'Allah vous préserve, j'ai peur de la mort, car j'ai peur du châtiment d'Allah. Mais cela ne m'empêche pas de faire quand même des péchés. Alors, quel conseil pouvez-vous me donner et comment faire pour échapper à l'enfer ainsi qu'au châtiment de la tombe en étant pécheur? Je demande à Allah la guider et le Jannah à tous mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikoum, cher.
Naam. Avant de répondre, inshallah ta'ala, à cette question, je pose 2 questions. La première, est-ce que la personne est avec nous, celle qui a parlé, qui a cité la fois passée le hadith des gens du paradis, les 120 rangs. La deuxième question, je te la pose à toi, Muslim. Est-ce que tu es avec nous? Écrit numéro 1, je te pose une question. Muslim n'est pas là. Malish, Muslim n'est pas là. Donc, si la personne est là. Donc je réponds à la question de la personne qui disait qu'elle craignait Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle fait des péchés. Je lui dis, certes, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pas la science qui t'empêcherait de faire les grands péchés. Non, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, mais te manque la science. Car quand tu as la science, et tu commences à connaître ton Seigneur, ça deviendra alors très difficile de quoi? De faire des péchés. Je ne veux pas dire par là que on va atteindre un stade où on va plus faire de péchés. Non. Les péchés, on les fera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit un point, écrit un si vous m'entendez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Cheikh Al-Albani rahmaullah. Imaginez qu'est-ce qu'il a dit alayhi wa sallam. Vous allez vous étonner. Le prophète alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un croyant hein, qui ne fait pas un péché jusqu'à ce qu'il meure avec ce péché. Allahu Akbar. Il n'y a pas un croyant qui n'a pas un péché qu'il fait jusqu'à ce que le jour où il meurt, il faisait toujours ce péché. Donc, juste reste à voir quel est ce péché que nous tous avons fait. On demande à Allah Ta'ala que ce soit pas un grand péché, c'est tout. Car le hadith n'a pas dit si c'est un grand ou un petit. Et il parlait sûrement d'un petit. Donc on fait tous des péchés. Kullu bani Adam khata. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Et les meilleurs, les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui font la tawba, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis à cette personne, nous tous, on fait des péchés, mais il n'y en a pas les grands, on parle des petits. Si on fait des grands, on fait de temps en temps, on se trompe. Une fois tous les 5 ans, je me trompe. Une fois comme ça. Mais c'est pas, yani, tout le temps, je fais des grands péchés. Non. Donc, toi, je ne sais pas si tu es en train de parler des grands péchés ou des petits. Si tu es en train de parler des grands péchés, ça veut dire que je te dis, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Car si vraiment tu le craignais, tu ne ferais pas des grands péchés. Et si tu en fais, tu n'en fais pas aussi souvent. Tu fais une fois dans 10 ans, tu te trompes une fois dans ta vie, deux fois, et comme ça. Donc, il faut aussi, comme j'ai dit, apprendre la science, inshallah. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le craindras et tu auras même honte. Honte de faire le péché. Pas seulement tu auras peur, mais tu auras honte. Comme a dit le prophète, il a dit, istahyu min Allah haqq al-haya. Il a dit, yani, ayez de la pudeur envers Allah Ta'ala. Il a dit, ayez honte de lui. Ne faites pas des péchés. Non. تفضل.
Cheikh, donc la personne est là pour le hadith, comme l'a écrit Fawzi. Et la sœur à qui vous avez répondu pour Salat Doha, elle a dit qu'elle n'a pas compris la réponse. Donc si vous pouvez lui réexpliquer, barakallahu fikoum, Cheikh.
J'ai dit que Salat Doha, les quatre rak'at qu'on fait avant le dhuhr ne rentrent pas dans Salat Doha. Voilà ce que j'ai voulu dire. Les quatre rak'at qu'on fait avant le dhuhr, ça rentre dans le hadith des 12. Les 12 rak'at que si une personne les fait tout le temps, Allah Ta'ala va lui construire une maison dans le paradis. Et ça ne rentre pas dans Salat Doha. Voilà ce que j'ai voulu lui dire. Bi'idhnillahi Ta'ala. Salat Doha, ça s'arrête bien avant Salat Dhuhr. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadhal.
Cher, je vous pose une question qui n'est pas en rapport avec le cours, parce qu'on me dit que je suis injuste à ne poser que des questions en rapport avec le cours. Donc, pour pas trop avoir de doha contre moi, je vous pose une question qui n'est pas en rapport avec le cours, donc, je suis là. Un frère qui vit en France dit qu'il passe actuellement un diplôme pour apprendre les langues étrangères. Il souhaite obtenir un diplôme français afin d'aller enseigner dans un pays musulman. Ce diplôme est très demandé et lui permettrait de trouver un emploi facilement en terre d'islam. Donc sa question est-il permis d'enseigner une langue étrangère à un musulman? Est-ce haram en même temps pour un musulman d'apprendre une langue des kuffars? Barakallahu fikoum, cher.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à l'un de ses proches, je crois Hassan, si je me trompe pas, Ibn Thabit, si je me trompe pas, il lui a demandé d'apprendre une langue étrangère, la langue des Juifs. Naam, comme ça, le hébreu, comme ça, pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse, yani, répondre aux Juifs quand ils lui écrivent. Et que lui aussi, yani, il puisse comprendre ce que les Juifs ont écrit. Donc, apprendre une langue étrangère. Si on veut l'apprendre, on va voir dans quel but on veut l'apprendre. Si je veux par exemple apprendre le français pour ressembler aux Français quand je parle, ou bien pour que les Français soient contents de moi, ou bien pour que yani, enlever un complexe, c'est comme ça. Tout ça, ça rentre dans le haram. Ça rentre dans le haram. Mais si j'apprends le français, nam, pour l'apprendre aux musulmans, pour que, en apprenant le français, ils puissent faire, par exemple, la da'wa au français. Toi, si tu ne connais pas le français, comment tu peux faire la da'wa à un français? Tu ne connais pas l'anglais. Comment tu peux faire la da'wa à un anglais? Nam. Maintenant, des fois, le français est obligatoire. Le français, la langue française, est obligatoire à l'école et au lycée, etc. Comment tu vas faire avec ton fils et ta fille qui ne connaissent pas le français? Si tu ne vas pas leur apprendre le français, comment tu vas faire avec eux? Non. Aussi autre chose, moi personnellement, non, je me dis, et je me plains, pourquoi lorsque, par exemple, j'enseignais l'allemand, pourquoi je n'ai pas appris les mots techniques? Les mots techniques, c'est-à-dire qui ont rapport avec la religion. Moi, en tant qu'enseignant d'allemand, je ne peux pas parler avec quelqu'un en allemand en ce qui concerne la da'wa. Je peux lui dire seulement comment tu vas, qu'est-ce que tu as mangé, est-ce que tu vas à l'école, où sont tes enfants, c'est tout. Ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Mais si je vais parler avec lui sur Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, l'enfer, la aqida, je ne peux pas, je ne connais pas les mots. Donc, si je connaissais, ça ne serait pas mieux que j'ouvre maintenant un salon en Europe, Allemagne, et ensuite que je fasse des cours en allemand en allemand par exemple, ce ne serait pas mieux sur la aqida. Donc plus on apprend inchallah ta'ala des langues, surtout si c'est pour yani la da'wa et ça, plus c'est mieux bi'idhna ta'ala, et on a même des récompenses inchallah ta'ala. Tfadla.
Barakallah fikoum cheikh, farakoum Allah. Un frère demande, la semaine passée, lors du cours de samedi à Afouane, vous avez dit qu'il n'est pas autorisé de dire uniquement salam au lieu de salam alaykoum. Vous avez dit qu'il n'y a pas de dalil sur ça. Et le frère cite deux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit salam. Idha khatabakum al-jahilun faqalu salam. Est-ce que cela signifie que c'est une parole dédiée uniquement aux gens du paradis? Barakallahu fikum cheikh. Donc est-ce qu'il est permis quand même de dire salam en prenant comme dalil ces versets?
Là aussi, il y a dans le Coran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Et il a dit, wa idha khatabahum al-jahiluna, qalu salama. Et beaucoup de versets en ce sens. Mais aucun de ces versets ne veut dire salam dans le sens que, yani, salam alaykum, yani la salutation. Mais c'est toujours dans le sens de, yani que, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, il a dit, wassalamu ala al-mursalin. Salam ala al-mursalin, c'est-à-dire que les messagers, yani, n'aient aucun mal, yani, ils n'auront aucun tort. On ne les laissera pas. Yani, femme, ils auront la paix. Et même ici, il a dit salamun ala. Il n'a pas dit salamun, c'est tout. Salamun ala al-mursalin. Al-Muhim, dans le verset, wa idha khatabahum jahiluna, qalu salama. Salama, ce n'est pas salamu alaykum. C'est-à-dire, yani, qalu salama, c'est-à-dire que, dans le sens où, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de vous. Naam, quel est le verset qu'il a cité? Quel est le verset qu'il a cité? Il n'y a aucun verset qui dit salam. Naam. Et il a dit que la parole des gens du paradis sera salam. Tfadlal, prends le micro.
Naam, Cheikh, il a cité surat Yassin, verset 58, et surat Al-Waqi'a, verset 26. Il dit que la parole des gens du paradis sera salam. Tfadlal,
Cheikh. Allah Ta'ala a voulu dire que les gens du paradis diront salam. C'est tout. Ça ne veut pas dire que quand ils se rencontrent, ils vont dire salam. Mais Allah Ta'ala veut montrer qu'ils diront salam. C'est tout. Mais comment qu'ils le diront? Allah Alam. La preuve, c'est que Allah Ta'ala a dit, ils diront salama, salama. Alors que dans le paradis, personne ne sait dans quelle langue ils vont parler. Il n'y a aucun hadith ou bien verset qui dit qu'ils vont parler en arabe. Il n'y a aucun verset ou hadith qui dit qu'ils vont parler en arabe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parlait de Ibrahim, lorsqu'il parlait de Nuh, là où il y a des dialogues qu'il parlait pareil en arabe, pourtant il ne parlait pas en arabe. C'est que Allah ta'ala nous traduisait ce qu'il disait. Al-Muhim, je résume, je dis, quand il y a dans le Coran salam, c'est pas la salutation, la façon comment on salue. Mais c'est, yani que, ou bien ils vont se saluer, il a cité seulement, yani qu'ils allaient se saluer, mais il n'a pas dit comment. Ici salam, ça ne veut pas dire que, voilà, ils vont se dire salam, c'est-à-dire ce mot-là. Mais il a dit qu'ils allaient se saluer. Ou bien, salam veut dire, dans beaucoup de versets, d'autres versets, veut dire que, yani, dans le sens, que chacun aille de son côté, comme il a dit dans le Coran, salamun alaikum lana amaluna wa lakum amalukum. Que chacun de son côté, nous avons nos œuvres, vous avez vos œuvres, yani, que chacun, yani, c'est loin de l'autre. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal.
Barakallahu fikum, cher. Question d'une sœur qui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, cher, pour vos cours ainsi que les admins. Je suis une sœur célibataire et je n'ai pas de mahram pour me suivre dans la hijra. Je voulais la faire en Algérie car j'ai des papiers algériens et c'est un pays conseillé par des savants. Je ne connais pas les pays arabes, mais on m'a dit que les femmes qui vivent seules en Algérie seraient persécutées. On attaquerait leur maison sous prétexte qu'on les soupçonnerait de fornication uniquement car elles vivent seules. Donc je voudrais avoir votre avis. Est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai? Et si oui, dois-je partir quand même dans ce pays pour la hijra? Barakallahu fikoum, cher.
Ceux qui ont dit ça, Allah ta'ala alam, ont exagéré. Mais je dis qu'en général, je crois que peut-être, il y a même ça chez vous, Allah alam, en général, quand une femme habite seule, donc, quand elle sort pour aller, je ne sais où, travailler ou bien je ne sais où, étudier ou l'a acheté ou là, il se peut que des voyous, yani, la guetter. Et alors, en son absence, ils vont rentrer dans sa maison et la cambrioler. Voilà surtout ce qu'ils font. Mais pas dans le sens où ils vont la persécuter. Voilà, yani, ce qu'ils peuvent faire quand ils savent qu'une femme vit seule, là, surtout si elle est dans un quartier populaire, un quartier où c'est plein de voyous. Donc elle a peur en ce sens, en quittant la maison, yani, il peut lui arriver quelque chose. C'est pour cela que il lui suffit, bi'idhnillahi ta'ala, de choisir un bon quartier, de choisir un quartier assez aisé. Ou alors il y a une autre solution, qu'elle se marie, bi'idhnillahi ta'ala. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Le frère qui a posé la question sur les langues demande et apprendre le français pour le commerce uniquement, est-ce que c'est permis? Donc c'est une petite parenthèse. Et autrement, cher, la nouvelle question. Barakallahu fikoum, cher, pour tout ce que vous faites. J'ai été marié à un homme et nous avons eu un enfant ensemble. Nous avons divorcé, mais je me pose des questions à savoir si ce mariage était valide. Parce qu'en fait, nous avions un gros problème de communication. Puisque je ne parle pas arabe et lui quasiment pas le français. Et nous n'avons jamais abordé le sujet de la dot. Pour moi, ma dot était un recueil de livres. Il me l'a acheté, mais je ne lui ai jamais dit que c'était ma dot. Je me disais qu'on en parlerait plus tard, quand on se comprendrait mieux. Mais on a divorcé, et aujourd'hui je ne sais pas si pour lui il y a eu une dot ou pas. J'ai essayé de lui demander, mais il ne m'a jamais répondu. Donc je voudrais savoir, puisque le sujet de la dot n'a jamais été abordé clairement entre nous, est-ce que ce mariage est valide? Et s'il ne l'était pas, cela veut-il dire qu'il n'a aucun droit sur notre enfant? Comme par exemple sa garde ou autre. Barakallahu fikoum, cher.
Le mariage est valide même sans la dot. En général en islam, le mariage est valide même sans la dot. Quand est-ce que le mariage n'est pas valide? Le mariage n'est pas valide s'il y a convenance entre les deux, par exemple, ou bien d'un côté, que on va se marier, il n'y a pas de dot. Et l'autre, il accepte. Elle, par exemple, elle accepte. Dans ce cas, c'est pas un mariage valable. C'est plutôt un mariage de zawaj muta. C'est plutôt un mariage yani, temporaire. Il n'est pas valable. Mais en islam, on peut se marier sans parler de la dot. Je rencontre une femme, yani, ou là, on me montre une femme, je vais chez elle, on me la donne, on consomme le mariage et on n'a pas parlé de dot. Et peut-être même qu'on va divorcer. On divorce, on n'a pas parlé de dot. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On divorce et je demande ma dot. Je demande ma dot. S'il la donne, biha wa ni'mat, s'il ne donne pas la dot, il aura yani, fait un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir divorcé, bien sûr, la dot serait quoi? C'est pas elle qui décide. Mais il doit donner une dot qu'on donne en général à une fille de son genre, à une femme de son genre. Sinon, après avoir divorcé, si l'islam donnait à la femme le choix de la dot, alors elle demanderait des milliards, surtout par vengeance pour son mari qui l'a divorcée, qui peut-être va se marier avec une autre. Si c'était 20 euros, elle va dire, moi j'avais dit 20 000, mais toi tu n'as pas entendu le 1 000, tu as entendu seulement 20. Alors moi j'avais dit 20 000. Donc je lui dis, le mariage est valide, inshallah. Maintenant, s'il n'a pas donné de dot, tu lui demandes de donner une dot. S'il ne donne pas, il aura des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère. J'aimerais avoir un conseil de votre part, cher, pour un frère qui n'arrive pas à trouver de travail à cause de sa barbe. On lui refuse systématiquement et on lui demande de la tailler. Pour le moment, il s'accroche, walhamdoulillah, mais l'homme est faible. Donc pourrez-vous, pour lui donner un conseil, afin de l'aider à rester ferme dans ses choix. Barakallahu fikoum, cher.
Moi, je ne sais qu'une chose, Inch'Allah Ta'ala, que s'il craint Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala lui fera une solution. Comme il a dit dans le Coran, Ittaqillah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Naam. Donc, je lui demande de craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala, d'être sincère avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, et Allah Subhanahu wa Ta'ala ouvrira une porte, bi'idhnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tfadlal. الأخ مسلم مسك تويلا أخ مسلم مسك تويلا نعم reste à savoir aussi pour la barbe dans la question a dit ça dépend aussi de quel genre de barbe il a s'il pense que la barbe on doit la laisser yani, jusqu'à ce qu'elle descende yani, jusqu'à ses genoux dans ce cas il se trompe et s'il a une barbe yani, normale yani, qu'il la laisse inshallah ta'ala. S'il est surtout s'il est d'avis qu'on ne doit pas la toucher. Maintenant, s'il est d'avis, comme Cheikh Salah Al-Cheikh par exemple, qu'on peut la toucher, mais l'essentiel c'est de ne pas se raser, ça c'est autre chose. Muslim, je reviens à toi, je voulais dire, regarde, lorsque Ibn Mohamed Al-Jazairi parle, pourquoi je pose à toi la question? Car tu te souviens que pendant les années 2005, 2006, 2007, quand je faisais les cours, je faisais avec le même micro qui est maintenant chez Ibn Mohamed Al-Jazairi. Ça veut dire, le micro avec lequel maintenant Mohamed Al-Jazairi fait, yani, est en train de parler, c'est celui que j'avais, sur lequel je faisais les cours autrefois. Maintenant, je remarque que quand il prend le micro, il y a comme, yani, quelque chose en entend, comme ça. Est-ce que c'est la même chose que vous entendiez autrefois? Est-ce que c'est la même chose que vous entendiez autrefois? Et est-ce voilà, non, c'est ça, subhanallah. Donc, parce qu'autrefois vous me disiez, cher, on entend quelque chose, on entend. Et moi, je vous disais, je n'entends rien. Moi, je vous disais, je n'entends rien, subhanallah. Subhanallah. Et lui aussi, si tu vas dire maintenant à Mohamed Jazairi, il va te dire, moi, j'entends rien. Mais subhanallah, c'est nous qui entendons. À cause du micro qui est branché. Voilà, à cause du micro qui est branché de l'intérieur. Ensuite, est-ce que vous, avec ce micro-là, duquel je vous fais des cours, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ou vous n'entendez pas? Non, alhamdoulillah. Pourtant, moi, j'entends. Comment ça s'appelle, Hadik, qui tourne comme ça? Comment ça s'appelle, Hadik, le ventilateur? Moi, j'entends de temps en temps. Le ventilo qui déclenche, je l'entends, Mais alhamdoulilah, puisque le micro n'est pas branché à l'intérieur, mais qu'il est yani, externe, c'est pour ça qu'on n'entend pas hadith. Je reviens à la question de la fois passée lorsque j'avais parlé d'un hadith que j'avais dit que le prophète islam, j'avais pas dit le prophète islam, j'ai dit que dans le paradis il y avait 4 rangs et que 3 rangs seraient yani, les rangées de la nation du prophète alayhi salatu salam. Et qu'ensuite quelqu'un m'avait écrit et donné le hadith des 120 rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est vrai, ce hadith, yani, je le connais depuis longtemps. Ça fait même pas aussi un mois. Ça fait même pas un mois aussi que il est tombé sous mes yeux. Mais moi, quand j'ai dit qu'il y avait 4 rangs et que 3 rangs c'était pour les croyants, peut-être, wallahu alam, j'ai dit ça, yani, dans le sens, c'est comme si je voulais expliquer que sur 4, yani, 3 seraient, yani, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire exactement les 2 tiers yani, les 2 tiers des gens du paradis feront partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant je suis en train de chercher, est-ce qu'il y a un hadith qui a dit comme ça 4 ans ou bien c'est moi qui ai dit comme ça en expliquant. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc on reste sur le hadith qu'a cité le frère, le hadith des 120 rangs du paradis, donc 80 faisant partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je profite pour dire que quand je vous fais des cours, toute personne qui yani, trouve yani, un problème dans une chose que je dis, je cite un hadith ou là je dis une chose, ou là, quelqu'un trouve un problème, il dit, pourtant moi j'ai lu le contraire, pourtant moi j'ai lu ceci ou cela, qu'il m'en fasse part, barakallahu fikoum. Parce que quand il va m'en faire part, ou bien c'est lui qui a fait une faute, alors je le corrige. Et alhamdoulillah, il va dire, alhamdoulillah, il m'a corrigé. Ou bien c'est moi qui me suis trompé, et alors il me corrige. Et là, c'est une ni'ma aussi de m'avoir corrigé. Et en me corrigeant, moi je corrige aussi aux autres. Je corrige aussi aux autres à qui j'ai dit une chose, par exemple, qui ou bien était fausse, ou bien je l'ai mal expliqué, ou bien je n'ai pas fait attention, ou bien. Là. Donc, j'encourage toute personne, que ce soit un frère ou une sœur, qui, yani, quand je dis quelque chose, trouve que quelque chose qui ne va pas, qu'il m'écrive, qu'il dise, yani, moi j'ai lu ceci ou cela, yani, avec respect, comme ça, barakallahu fikoum, yani, qu'en pensez-vous de ceci, cela, alors que vous avez dit ceci ou cela? Et جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضل.
Comme cher. Donc je m'excuse pour le son. Moi j'avais l'impression que le son était masha'Allah. Donc je m'excuse et j'essaierai de changer la prochaine fois, inshallah. En attendant, je pose la question d'une sœur qui demande. Assalamu alaikum cher. Si une personne perd la vue, est-ce qu'Allah lui accorde le paradis pour la compenser de sa patience? Et cela même si elle perd la vue pour un autre motif que pleurer par crainte d'Allah. C'est-à-dire est-ce qu'Allah Azzawajal offre le paradis à toute personne qui perd sa vue pour sa patience, ou est-ce que c'est seulement pour ceux qui auront perdu la vue en pleurant par crainte d'Allah Azzawajal? Barakallahu fikoum cher.
Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique a dit que Allah Ta'ala a dit que si jamais une personne perdait la vue, il n'a pas dit pour quelle raison, si jamais une personne perdait la vue, alors il n'aurait d'autre récompense que le paradis. Hadith authentique. Alors il n'aurait d'autre récompense afoune, que le paradis. Donc toute personne qui perd la vue, même si ce n'est pas pour pleurs et par crainte d'Allah, elle n'aura comme récompense que le paradis. Donc, je reviens. Maintenant, vous m'entendez? Fawzi, alhamdoulilah. J'ai dit à condition. À condition, quelle condition? À condition, par exemple, que ça ne soit pas la personne qui ait, par exemple, enlevé ses yeux. C'est pas, par exemple, une personne qui va prendre, par exemple, de l'esprit de sel, par exemple, et va les mettre dans ses yeux pour devenir aveugle. Ou bien pour se montrer, c'est comme si elle veut aller se brûler ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas, non. Dans ce cas, c'est l'enfer. Mais si une personne, yani ses yeux sont partis, yani d'eux-mêmes, c'est pas elle qui a été la cause, Allah Ta'ala, yani, n'a d'autre récompense que de faire entrer la personne au paradis, comme il a dit dans le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Est-il permis d'ouvrir un centre de ruqya? Car dans une ville voisine de mon domicile, a été ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf le vendredi de 9h à 11h, avec une consultation à 50 euros, qui comprend diagnostic, hijama, lecture et traitement. Est-ce que cela fait partie de la sunna? Barakallahu fikoum, cher.
Tu as dit avec hijama, qu'est-ce que tu as dit après? Tu as dit hijama une chose et tu as dit traitement. Tfadlal.
Lecture, cher. Qira'at al-Qur'an. Barakallahu fikoum.
Non, c'est pas permis. Ça rentre même dans la bid'a. Les salafs ne l'ont pas fait. Les salafs, jamais une personne n'a fait ça des salafs. Et il a dit, je vais me consacrer seulement avec la ruqya et je vais faire de cela un métier. C'est permis dans le cas où on va sortir, on va ouvrir un centre, mais gratuitement. Si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, du matin au soir, yani on lit sur les gens et on le fait la hijama et malish, c'est permis. Mais si on le fait maintenant à but lucratif, ça rentre dans la bida. Jamais la ruqya n'a été, yani Allah ta'ala n'a dit, le prophète sallam, de la faire en tant que métier pour faire entrer de l'argent. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère, il me semble, qui dit assalamu alaikum, cher, hayakumullah. Est-il vrai qu'il existe un kafour spécial pour le lavage du mort? Ou est-ce que c'est celui qu'on connaît? Barakallahu fikoum, cher.
Non, c'est celui qu'on connaît. C'est celui qu'on connaît. Ensuite, si la personne n'a pas trouvé de kafour, elle peut mettre yani, n'importe quoi qui a un rapport avec le musc et le parfum qui ne dépasse pas 50 degrés, comme ça. Mouhim, pour que ça donne une bonne odeur, bidnillahi ta'ala. Tfadlal.
Le frère vous demande si vous pouvez répondre à la précision, est-ce qu'il est permis d'apprendre le français uniquement pour du commerce? Et à question d'un frère, assalamu alaikum, cher. Est-ce que je peux savoir, je voudrais savoir si je peux donner la zakat pour la construction d'une mosquée. Une mosquée al-Sunnah al-Jama'a. Donc c'est à la fille, inshallah. Barakallahu fikoum, cher.
Si on apprend le français pour un but de commerce, c'est permis. C'est permis. Car j'apprends, c'est pas pour le français en lui-même. Et c'est pas pour aimer. Aimer, yani. Les Français, ni suivre leur religion. Mais c'est mon commerce qui se trouve en France. Pour cela, inshallah ta'ala, c'est permis. Quant à l'autre question qui parlait de quoi, écris-moi quelque chose. Écris-moi un mot sur la question. Zakat, naam. On ne peut pas donner une mosquée. C'est interdit de donner la zakat à une mosquée. Naam, tfadlal. On ne rentre pas dans les huit, yani sortes. Allah Ta'ala a cité huit sortes dans le Coran. Il n'y a pas la mosquée, il n'y a pas la construction de la mosquée. Naam, c'est interdit. Tfadlal.
En fait, cher, je pense que cette personne, elle se base sur l'avis de certains doigts qui ont permis, en disant que fisabilillah, et que ça rentre dedans, parce qu'une mosquée, ça va permettre de faire des cours et autres, et donc ça va rentrer dans la da'wa fisabilillah. Entre-temps, cheikh, il y a la personne qui est revenue encore sur Salam, il dit, voilà un verset qui prouve qu'il est permis de dire Salam pour saluer. Le récit des honorables hôtes d'Ibrahim, alayhi salam, est-il parvenu quand ils entrèrent chez lui et dirent Salam? Ibrahim a.s. leur a répondu salam. Soit Zariyat. Donc, il demande si c'est bien Dalil ou pas. Et là, une question, cher, on revient aussi sur la question de Doha. Bon, vous avez commencé par répondre à celle-là et je reviendrai sur les tchats.
Ibn al-Jazairi, qu'est-ce que tu avais question de Salam? Tu parlais de quoi avant la question de Salam? Tfadlal. Ça y est, je me rappelle, je me rappelle.
Est-ce que
Je me rappelle maintenant.
vous vous en souvenez, cher? Parce que il me semblait que vous m'avez dit oui, je me rappelle, c'est pour ça que j'ai rien dit. Je vous disais en fait qu'il y avait certains doigts qui disaient, quand Allah Azzawajal parle des 8 personnes qui ont droit à zakat, il dit wa fi sabilillah. Et certains doigts ont dit que fi sabilillah, on peut rentrer à la mosquée parce que c'est fi sabilillah. Il y aura des cours, il y aura autre, ça permettra dans la da'wa fi sabilillah. Donc il dit qu'on peut rentrer, on peut faire zakat dans ce but-là. Voilà.
Alhamdoulillah. Ceux qui ont dit que fi sabillah, c'est comme ça en général, donc ça rentre la construction de la mosquée pour la zakat, se trompent. Car pourquoi ils se trompent? Car si fi sabillah, ça englobait tout ce qui est fi sabillah. Dans ce cas, Allah Ta'ala, pourquoi qu'il a cité cette autre chose? Pourquoi il a cité les pauvres, ensuite les nécessiteux, les endettés, ceux qui travaillent pour la zakat? Pourquoi il cite tout cela alors que cela aussi c'est fi sabillah? Un pauvre, c'est fi sabillah. Quand tu donnes à un endetté, tu donnes fi sabillah. Donc ça se voit que c'est pas vrai. Le verset, quand il a dit fi sabillah, le prophète Aïssam l'a expliqué. Il a dit fi sabillah, ça rentre le hajj et ça rentre le djihad. Quelqu'un de l'argent de la zakat, c'est permis. Et dans le djihad, ça rentre aussi le djihad de la science. Quelqu'un qui veut de religieuse, c'est permis. La zakat, bidna ta'ala. Ça coupe. Mais allez, je patientez avec moi juste que je réponde à cette dernière question. Ensuite, Allah ta'ala va faire une solution. Vous m'entendez? Je termine. Alhamdoulilah. Ibn al-Jazari, est-ce que tu as compris pour la zakat? C'est terminé. Si tu as compris, écris numéro 3. C'est terminé pour la zakat. Vous avez entendu? Écris numéro 3. Alhamdoulillah. Reste pour le verset qu'il a cité pour dire salam. Salam et salama. Je dis, ce verset n'est pas un dalil pour trois raisons. C'était la personne de... Non. Ce verset n'est pas un dalil pour trois raisons. Premièrement, nous on est en train de dire en arabe salam au lieu de dire salam alaykoum. Alors que Ibrahim alayhi salam, quand il a dit salam, salam, on lui a dit, lui il a dit salam, il n'a pas parlé en arabe. Il a parlé en hébreu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, et ce qui est important aussi, c'est que, à supposer, on va supposer que Ibrahim alayhi salam avait parlé en arabe, ce qui est impossible. On va dire, nous, on suit qui? Ibrahim alayhi salam, c'est shar'un man qablana. C'est une sharia de qui nous a. On suit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dit que. Yani, que ceux d'avant nous, les messagers, ont été envoyés à leur propre nation. Quant à moi, j'ai été envoyé à tout le monde. Donc, on va dire ça, c'est la charia de Ibrahim. Zama, s'il avait parlé en arabe. Quant à nous, on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien dans la sunna où quand il dit salamu alaykum. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Vous m'entendez pas? Tayyib. Et puisque ça coupe beaucoup, ça tombe bien, donc on va terminer, inshallah ta'ala. Je dis, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal!
Enfin, cher, la première chose, c'est que qu'on s'excuse auprès des frères et des sœurs, mais on a été dans l'urgence aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a peut-être sauté des personnes ou passé d'autres avant d'autres, donc ils nous excusent. Enfin. Et aussi, je voulais vous dire que la plupart des frères et sœurs qui ont posé des questions, vous faisiez pas cher, et vous disiez que les cours étaient mashallah, que moufid aussi, inshallah. Mais j'essayais de passer au maximum afin de traiter plus de questions parce qu'il y avait énormément de questions. Donc là aussi, je demande aux frères et aux sœurs de m'excuser. Amin à tous vos doigts et qu'Allah Azza wa Jalla taqabbal minna wa minkum. Et enfin, cher, c'est la sœur qui avait posé la question sur Doha. Elle demande des précisions. Elle dit qu'elle n'a pas compris à quel moment donc est l'heure de Salat Doha et à quel moment, à partir de quel moment elle peut faire Rawatib de Dohr, les 4 rak'at avant Salat Doha. de vous avoir.
Naam, le meilleur moment des rawatib, c'est après l'adhan. Le meilleur moment des rawatib, c'est après l'adhan. Quand c'est le moment du dhar, elle entend que c'est l'adhan, elle fait les rawatib, ensuite elle prie. Elle fait les rawatib, ensuite elle prie, bidna ta'ala. Mais elle ne fait pas les rawatib avant le moment du dhar. Elle ne peut pas faire les rawatib du dhar, les quatre, avant le moment du dhar. Le moment du dhar, bien sûr, c'est l'adhan pour ceux qui l'entendent. Ceux qui sont dans un pays où il n'y a pas adhan. Dans ce cas, ils voient le moment. C'est quand la rentrée du moment du dhar. Quand c'est le dhar, ikhlas, un peu faire, inshallah, nafila. Et voilà, on arrête ici. Excusez-moi, yani, déjà, ça commence à couper. Et moi aussi, je commence à avoir mal à la tête. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, si on est mercredi. Ou bien mercredi, si on est samedi. Samedi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est mercredi ou samedi? On est quoi? Qu'Allah vous préserve. Mais on est mercredi. Donc jeudi, vendredi, samedi. On va se rencontrer samedi, Inch'Allah Ta'ala. Sauf s'ils vont nous sortir quelque chose comme quoi c'est la fin du monde. Ahna alhamdoulillah, on n'a pas été perturbé par la fin du monde. Il y a des gens qui, yani, qui ont déménagé, d'autres qui sont partis vivre dans la forêt en attendant yani, la fin du monde. Il y en a qui ont pleuré tout ce mois. Il y en a qui, qaddar Allahu ma chaf, yani, alhamdoulillah, ladhi afana. Il y en a même qui se sont suicidés. Il y en a même qui se sont suicidés de peur. Naam, il y en a qui ont acheté des conserves et sont partis je ne sais où. Et vous remarquez que la fois passée, ils avaient dit que c'était yani, une semaine avant ou les 10 jours. Ensuite, on leur a fait comprendre que la fin du monde serait un vendredi chez les musulmans. C'est pour ça qu'ils ont changé après la date. Ils ont dit la fin du monde, ce sera vendredi, c'est-à-dire vendredi passé. Et nous, alhamdoulilah, on était apaisés avec un cœur serein, l'âme sûre que ce n'est pas la fin du monde. Il y en a même qui ont jeté un masque. Subhanallah l'adhim. L'égarement, qu'est-ce qu'il fait? L'égarement, qu'est-ce qu'il fait? A'oudou billah, l'égarement. Naam, je disais, naam, nous, pourquoi on est sûr? Parce qu'il n'y a pas les 10, quoi? Les 10 grands signes. Il n'y a pas les 10 grands signes. Isa alayhi salam, Jésus, n'est pas descendu. La bête, on l'a pas en tremblement de... Pas Gog et Magog ne sont pas sortis. Il n'y a pas de Messie et Dajjal. Il n'est pas écrit, je ne sais pas quoi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته